vous d'Haïti et des Amériques, Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Les 9h10 à Washington. Trump au cœur du complot, retour aujourd'hui sur la première audition publique hier de la commission du 6 janvier aux États-Unis. Plus de 450 marches à travers tout le pays. Demain, samedi, les opposants américains aux armes à feu manifesteront. On s'arrête en Géorgie. La soif de changement d'une jeunesse victime de la répression l'an dernier lors du paro en Colombie à 9 jours du second tour de la présidentielle. On s'arrête dans le pays. Et puis, une mère qui dort avec des migrants dans la rue. Ça, c'était hier soir en Guyane, on en parlera avec vous, Tiziana Maron.
Oui, une façon pour Sandra Trochimara d'interpeller les services de l'État responsables de l'accueil des étrangers.
Le journal de la première, c'est dans une quinzaine de minutes. Bienvenue à tous.
I am not allowed to say what's going to happen today.
Des images inédites, un récit minute par minute de l'émeute qui a fait vaciller la démocratie américaine. C'était hier soir sur quasi toutes les grandes chaînes de télé du pays, la première des auditions publiques de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur l'attaque du Capitole à Washington le 6 janvier 2021. Les 9 élus qui composent cette commission en ont profité pour dévoiler les premiers résultats de leur travail et le constat est sans appel. Le 6 janvier a été une tentative de coup d'État avec au centre du complot, Donald Trump. Écoutez, Liz Cheney, l'une des deux élues républicaines qui siègent dans cette commission.
Le matin du 6 janvier, l'intention de Donald Trump était de rester président des États-Unis en dépit du résultat légitime de l'élection de 2020 et en violation de son obligation constitutionnelle de céder le pouvoir. Pendant plusieurs mois, Donald Trump a supervisé et coordonné un plan sophistiqué pour renverser l'élection présidentielle et empêcher le transfert du pouvoir. Ceux qui ont envahi notre Capitole et combattu les forces de l'ordre pendant des heures étaient motivés par ce que Donald Trump leur avait dit, à savoir que l'élection leur avait été volée et qu'il était le président légitime. Le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la mèche de cette attaque.
Liz Cheney, vice-présidente de la commission d'enquête. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Liz Cheney est devenue la bête noire de Trump. La presse américaine parle beaucoup d'elle ce matin.
Oui, selon la sénatrice du Wyoming, rapporte le New York Post, Donald Trump a aussi dit pendant l'émeute que le vice-président Mike Pence méritait d'être pendu, alors que ses supporters chantaient « Pendez Mike Pence ». Rappelons que le vice-président ne s'opposait pas à la certification des résultats de la présidentielle, faisant de Joe Biden le nouveau président des États-Unis. Du coup, Liz Cheney s'est adressée directement aux républicains qui défendent l'indéfendable. Un jour arrivera où Donald Trump sera parti, mais votre déshonneur, lui, restera, relève le Washington Post. Le journal rappelle que les républicains, qui, à de rares exceptions, se sont rangés du côté de Donald Trump, ont exclu la députée du Wyoming de la direction du parti et tentent de l'évincer à l'occasion des primaires pour les législatives.
Liz Cheney a donc pu répliquer hier et ses paroles ont été diffusées par les grandes chaînes américaines.
À l'exception de Fox News. Ça doit être parce que la vérité fait mal, assène USA Today. Fox News a quand même couvert les auditions, mais de manière absolument catastrophique, juge le journal, selon qui la chaîne a tout fait pour les discréditer, parlant d'auditions vides et ennuyeuses. Alors que, à en croire le New York Times, de toute l'histoire des États-Unis, 246 ans, il n'y a jamais eu d'accusation plus accablante présentée contre un président américain.
Et après, c'est la question. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour.
Ce n'était qu'un début hier soir. D'autres auditions publiques vont suivre, afin d'enfoncer donc un peu plus le clou sur le rôle joué par l'ex-président.
Oui, tout à fait. Dans les semaines à venir, les élus expliqueront comment l'ancien président a essayé de voler la présidentielle alors qu'il la savait perdue. Le public apprendra que l'ex-locataire de la Maison-Blanche avait planifié de remplacer de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice par ses propres alliés pour approuver la thèse d'une fraude électorale ou que Donald Trump avait convoqué des groupes d'extrême droite pour attaquer le Capitole. La commission reviendra aussi longuement sur les pressions exercées justement sur le vice-président de l'époque, Mike Pence, pour qu'il annule la victoire de Joe Biden. Le rapport final sera publié en septembre, juste avant les élections de mi-mandat, donc, mais le temps presse. Les républicains ont menacé de mettre un terme à la commission d'enquête s'ils retrouvent la majorité au Sénat.
Les républicains les plus conservateurs, merci beaucoup hein, Stéphanie, qui s'opposent vivement à toute mesure, allant à l'encontre du port d'armes. Le débat, vous le savez, est revenu sur la table après la fusillade dans une école du Texas. Le Congrès penche en ce moment sur un encadrement légèrement plus strict des armes à feu après des décennies d'inaction et demain à Washington pour mettre la pression, comme dans plus de 450 autres villes américaines, des marches contre les violences par armes à feu seront organisées. Ce sera le cas par exemple en Géorgie, état clé des élections à venir, la Géorgie où cette question des armes divise. Reportage Marie Normand.
Reussmann est l'un des organisateurs de la marche pour nos vies ce samedi à Atlanta. Lutter contre les violences par armes à feu est une urgence pour cet étudiant de 23 ans.
Le fait que le Congrès ne prenne aucune mesure est une trahison pour quasiment tous les électeurs de ce pays qui soutiennent largement des réformes de bon sens.
Trois personnes sur quatre sont par exemple favorables au relèvement de l'âge légal pour acheter une arme. 21 ans contre 18 aujourd'hui. Mais selon le même sondage publié cette semaine par l'université Quinnipiac, seulement 50% des Américains approuvent l'interdiction à l'échelle nationale de la vente de fusils d'assaut. Ali, elle, s'y oppose fermement.
Ce ne sont pas les armes qui tuent les gens, ce sont les gens qui tuent d'autres gens.
À 17 ans, elle pourra acheter une arme légalement l'année prochaine. Alexander, 22 ans, n'en possède pas pour l'instant, mais il veut garder la possibilité de s'en procurer une plus tard. Pour cet étudiant à l'université de Georgia Tech, le débat sur les armes est un faux débat. Il en est sûr après le visionnage de la vidéo de la fusillade dans un supermarché de Buffalo le mois dernier.
Le tireur a réussi à retransmettre la fusillade en direct suffisamment longtemps pour tuer 10 personnes devant la caméra. C'était horrible. Mais le problème, c'est que cette personne était clairement dérangée. Je pense surtout qu'il y a des personnes qui ont des troubles mentaux et qu'on doit les contraindre à prendre un traitement plutôt que de supprimer un droit que nous avons depuis que ce pays a été fondé. Le contrôle des armes, c'est un bouc émissaire qui cache un plus gros problème.
À côté de lui, Brandon approuve. Pour lui, la clé, c'est l'accès aux services de soins en santé mentale. Il connaît bien le problème. Il dépense lui-même plusieurs milliers d'euros par an en assurance pour être couvert.
Si tu souffres de problèmes de santé mentale dans ce pays, c'est très difficile de te faire aider. Très difficile aussi d'avoir les moyens de te faire aider.
Une idée que John, rencontré à la sortie de la messe dans le centre-ville d'Atlanta, balaye totalement.
Bien sûr, la santé mentale joue un rôle, mais d'autres pays ont le même problème et ils n'ont pas tous bordel. On a une prolifération des armes, il y en a trop. C'est un problème de sécurité nationale et non de santé mentale.
C'est la principale raison qui le poussera à voter démocrate aux élections en novembre.
Aimer tes enfants ou aimer tes armes, il faut choisir.
Mais même si davantage de progressistes sont élus, auront-ils les coups des franches? La sénatrice démocrate de Géorgie, Michelle Hao, raconte avoir porté depuis un an deux projets de loi devant le Congrès local pour généraliser d'une part l'examen des antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs et d'autre part imposer quelques jours d'attente entre l'achat et le retrait d'une arme. Aucun de ces textes n'a passé l'étape de l'étude de la commission de la sécurité publique, nécessaire avant le passage au vote. La faute, selon elle, au financement des campagnes.
Beaucoup d'élus ont des intérêts séparés de ceux de leurs électeurs, car ils reçoivent des soutiens financiers du lobby des armes.
Il y a quelques semaines, le gouverneur républicain de Géorgie a signé une loi autorisant les résidents à porter des armes de poing en public. Sa campagne pour une réélection en novembre est largement soutenue par le plus grand de ses lobbies, la NRA. Marie Normand, Atlanta, RFI.
Et d'Atlanta à Los Angeles, où se termine ce vendredi le sommet des Amériques. Hier, le président argentin y a pris la parole.
Definitivamente, hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela.
Une prise de parole très remarquée, Christophe.
Oui, en 10 minutes de discours à porte-la-voix, Alberto Fernandez a critiqué les embargos mis en place par les États-Unis contre Cuba et le Venezuela, s'est élevé contre la décision de Washington de ne pas inviter les représentants cubains, nicaraguayens ou vénézuéliens au sommet. Selon La Nation, Joe Biden a écouté ses paroles très attentives, crayon en main, concluant d'un « on commence fort », la session qui s'était terminée sur un discours du secrétaire général des Nations Unies.
Et selon La Nation, ce discours d'Alberto Fernandez était en fait avisé interne.
Pour le journal, il ne s'agissait pas de modifier la perception de Joe Biden sur la situation en Amérique latine, mais bien maintenir unie la coalition qui gouverne l'Argentine et les ponts avec la vice-présidente et ancienne présidente Cristina Kirchner. Et La Nation de souligner que si Alberto Fernandez a parlé du silence des absents, il n'a rien dit du silence d'autres absents qui interpellent aussi les gouvernements latino-américains, celui des victimes des régimes dictatoriaux de Miguel Díaz-Canel, Nicolas Maduro et Daniel Ortega.
La presse haïtienne, elle aussi, suit le Premier ministre Ariel Henry qui se trouve également à ce sommet des Amériques.
Et il multiplie les rencontres à Los Angeles, titre le Nouvelliste, le président dominicain pour parler sécurité et renforcement de la coopération douanière, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, le secrétaire général de l'OEA pour parler là aussi sécurité et poignée de main avec Joe Biden. Maintenant, le leader peut mourir en paix car il sent qu'il a accompli le plus grand acte de sa carrière, se moque Réseau Nord-Ouest. Plus sérieusement, dans son éditorial, le Nouvelliste note que si le sommet n'est pas consacré à la crise haïtienne, il n'y a aucun inconvénient que le Premier ministre Ariel Henry en profite pour attirer l'attention sur Haïti. Mais pour l'éditorialiste, il est temps qu'on cherche une solution haïtienne à la crise.
RFI, Las Voces del Mundo.
8h21 à Bogota, J-9 avant le second tour de la présidentielle en Colombie. Et voilà que la presse, Christophe, révèle des enregistrements embarrassants pour le candidat de la gauche, Gustavo Petro.
Enregistrement diffusé par l'hebdomadaire Semana, selon qui la campagne du candidat du pacte historique a apparemment organisé une stratégie pour discréditer ses adversaires politiques. Rodolfo Hernandez a réagi de Miami en disant craindre pour sa vie, c'est la une d'El País. Le candidat malheureux du premier tour, Federico Gutiérrez, qui aujourd'hui soutient Rodolfo Hernandez pour le second tour, parle d'un Petroguette, un calvaire 2.0 pour Petro, s'interroge El Espectador, qui note qu'à quelques jours des élections, les coups bas pleuvent. Selon un dernier sondage de Semana, Gustavo Petro est à 48,1% des intentions de vote et Rodolfo Hernandez à 46,8%.
Merci Christophe. Gustavo Petro, qui peut compter notamment sur les voix des jeunes électeurs qui ont participé l'an dernier au PARO, vaste mouvement de contestation qui a secoué la Colombie pendant 2 mois, mouvement durement réprimé par le gouvernement sortant, plus de 80 jeunes ont été tués, des milliers d'autres blessés, selon Amnesty International. Le 7 mai 2021, dans la ville de Cali, épicentre de la contestation, un homme armé a tiré à bout portant dans la tête de Dario Rodriguez, 23 ans. Il a survécu, mais est aujourd'hui handicapé. Ses proches, comme son frère, réclament justice.
Cela se passe comme cela se passe toujours en Colombie. À savoir, la justice colombienne fait traîner les choses, et encore plus quand l'État lui-même est mis en cause. La composition du bureau du procureur a été modifiée, de nouveaux procureurs ont été nommés. Et pendant ce temps, l'enquête n'avance pas. Nous n'avons pas eu accès aux vidéos des caméras de surveillance qui ont enregistré les faits. La police affirme que les caméras étaient hors service parce qu'elles auraient été vandalisées. Mais les caméras se trouvent à une telle hauteur qu'il est presque impossible de les vandaliser. Selon nous, il s'agit là d'une ingérence directe des autorités pour que nous ne sachions pas ce qu'il s'est passé. Ce qui est curieux, c'est qu'exactement un mois après ce qui est arrivé à mon frère, quelque chose de similaire s'est produit au même endroit. Un homme est arrivé à moto et il a ouvert le feu. 3 manifestants sont morts sur le coup. Ils n'ont pas eu la chance d'être sauvés. Sauf que comme c'était le matin, vers 11h, et qu'il y avait beaucoup de monde sur les lieux, eh bien les gens se sont jetés sur le tireur et ils l'ont lynché. Après coup, on a découvert que le tireur était un ancien officier de l'armée et qu'au moment des faits, il était employé du bureau du procureur. En d'autres termes, l'assassin était un salarié de l'État. Pendant le soulèvement social, qui a duré des semaines, des individus armés non identifiés ont attaqué à plusieurs reprises les points de rassemblement des protestataires. Des camionnettes blanches passaient près des points de ralliement des manifestants et des individus tirés de l'intérieur des véhicules. Le 7 mai, la garde indigène a réussi à intercepter une de ces camionnettes. L'un de ses occupants, qui a été capturé par les indigènes, a déclaré qu'il travaillait pour la police.
Quel était l'impact de ce drame sur votre famille ?
C'était un coup psychologique et émotionnel très dur pour toute la famille, mais surtout pour la vie de Dario. Il a passé 17 jours dans le coma et puis il s'est réveillé avec des dommages cognitifs à cause de l'impact de la balle qui a emporté la partie gauche de son cerveau. Il a beaucoup de problèmes, il a du mal à parler, son champ de vision est réduit, le côté droit de son corps est partiellement paralysé. Mais Dieu merci, il est vivant, il est conscient, il essaie de mener une vie normale, même si elle ne sera plus jamais la même. Depuis son indépendance, la Colombie a toujours été un pays violent. Ma mère, par exemple, en avait déjà subi les conséquences. Dans les années 90, l'un de mes oncles, son frère, a été assassiné par un groupe de paramilitaires proches du gouvernement de l'époque. Bien sûr qu'on nous a toujours raconté l'histoire de l'oncle assassiné, mais on pensait qu'avec le temps, les choses allaient quand même mieux. Et là, on se rend compte que non. J'ai l'impression que mon frère ne fait qu'épaissir ces dossiers dans lesquels l'État agit pour assassiner sa propre population. Ce qui est arrivé à mon frère n'est pas un cas isolé, mais bien un système qui a été mis en place pendant la contestation sociale. C'est très dur et je ressens beaucoup de compassion pour ce qui est arrivé à d'autres familles en Colombie pendant la même période. Et tout cela nous a aidés à comprendre que nous avons effectivement besoin d'un changement. Nous sommes devenus des victimes de la répression, de ce mouvement de contestation, précisément à cause d'un État défaillant qui ne garantit rien. Nous, la famille de Dario, espérons toujours que l'enquête donne des résultats. Mais sans changement de gouvernement, justice ne sera jamais rendue.
Alberto Rodriguez, donc frère de Dario, blessé lors du paro en Colombie. Interview signée Stéphanie Schuller. Le journal de la première avec Tiziana Marone, bonjour.
Bonjour Michael.
La mère de Cayenne, Sandra Trochimara, a voulu dormir hier soir dans la rue.
Oui, une nouvelle action aux côtés d'un nouveau groupe de migrants. Sandra Trochimara a annoncé qu'elle resterait dans la rue le temps que ces personnes soient prises en charge par les services de l'État responsables de l'asile. Le reportage est signé Guillaume Perrault de Guyane La Première.
1h du matin, les 5 familles et une partie des célibataires sont recensés par les services de l'État. Des logements d'urgence sont réquisitionnés pour les accueillir. Sandra Trochimara, maire de Cayenne.
Il n'y a plus de raison que je poursuive le sitting puisque les familles ont été mises en sécurité.
Après une nouvelle fois constaté que des personnes dormaient dans la rue en face de l'Office français d'immigration, l'élu du chef-lieu décide de faire un sit-in pour dénoncer une situation qu'elle n'accepte plus.
Demain, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, je serai là de nouveau. Parce que j'ai dit que tant qu'il n'y avait pas un hébergement, je restais là. Donc je vais attendre un moment pour voir si les choses se calment. Ma police municipale fera le tour. S'il y a quoi que ce soit, je reviendrai.
Une petite centaine de citoyens et de nombreux candidats aux élections législatives de la première circonscription répondent à l'appel de la maire lancé sur les réseaux sociaux. Des bancs sont installés, dans la rue bloquée, résonnent les conversations, les chants et le son des tambours. Le président de la CTG, Gabriel Serville, appelle une nouvelle fois à ce que l'État respecte ses devoirs en matière d'accueil des étrangers.
Madame le maire m'expliquait que ces appels sont restés sans réponse. J'espère que ça ne va pas durer pendant trop longtemps.
Encore une fois, c'est une solution d'urgence qui est apportée pour loger des enfants et des personnes âgées qui demandent de l'aide. Reste à savoir quand une réponse pérenne sera trouvée.
En Guadeloupe, le nombre de cas de Covid repart à la hausse avec l'arrivée sur le territoire de sous-variants d'Omicron. Pour la première fois, le BA4 a fait son apparition la semaine dernière. 400 nouvelles contaminations ont été enregistrées en une semaine. Cap sur la Martinique, l'astronaute Thomas Pesquet ira à la rencontre des jeunes Martiniquais tout ce week-end, histoire de susciter quelques vocations. Un Thomas Pesquet impatient avant ses rencontres prévues aujourd'hui et demain. Il répond à Ambre Rifla de Martinique La Première.
Leur parler des carrières aéronautiques, leur dire qu'il faut se lancer, je trouve ça un message important. On peut le dire de loin, mais de rencontrer les gens, ça fait pas le même impact. Moi, mon parcours, il y avait vraiment rien qui me destinait à ça. Moi, je suis né dans un village, il y a 54 habitants à la campagne. Donc c'est exactement quelque chose qui pourrait arriver à quelqu'un d'ici.
Et avant de vous quitter, un mot sur ce 10 juin. Toute la Guyane commémore l'abolition de l'esclavage prononcée en 1848. À Sinnamary, par exemple, dans le nord-est du département, des reconstitutions de cases d'esclaves et une marche sont prévues aujourd'hui. Puis la plantation des manguiers, place de la liberté. Fin de cette édition, bonne journée.
Merci beaucoup Tiziana Marone, à vous et aux équipes de La Première. Vous refermez ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, le dernier de la semaine, réalisé aujourd'hui par Hélène Avril et Raphaël Belon. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Très bon week-end à tous à l'écoute de la Radio du Monde.
Une semaine d'actualité.